VOA Afrique.
Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide en direct de New York. Plein feu cette semaine sur la récente attaque djihadiste au Burkina Faso, mais aussi plus largement sur le danger terroriste devenu omniprésent en Afrique.
Pour des dirigeants africains, l'attentat de Ouagadougou confirme qu'aucun pays du continent n'est épargné. Mais que doit faire l'Afrique pour enrayer la menace djihadiste ? La réplique militaire à elle seule suffira-t-elle ? Notre décryptage à venir.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Nos invités nous rejoindront dans quelques petites minutes pour parler de cet assaut terroriste au Burkina et de ce qu'il signifie pour la sous-région et au-delà. Mais d'emblée, le point sur l'enquête avec Issa Napo, notre correspondant à Ouaga.
Le splendide hôtel sur l'avenue Kwame Nkrumah n'est plus ce qu'il était. Vendredi dernier, un commando armé a pris d'assaut les lieux. Bilan, au moins 30 morts, de 17 nationalités différentes, une centaine de blessés. Mercredi matin, les forces de sécurité s'apprêtaient à lever la ceinture sécuritaire qui entourait le périmètre. Le quartier, qui est généralement fréquenté par les étrangers et les hommes d'affaires, a changé de visage. Les autorités se font très discrètes sur les informations liées à l'enquête. Une dizaine d'enquêteurs français et 5 agents du FBI travaillent également d'arrache-pied avec les policiers burkinabés pour identifier les corps et relever le moindre indice. Plus de 7 heures après l'assaut et une traque sans relâche, 3 terroristes sont tués au Taxi Brousse, un bar situé dans le même carrefour que le Splendid Hotel et le Cappuccino. Les assaillants s'y étaient réfugiés pour échapper aux soldats d'élite qui contre-attaquaient. La procureure Maïsa Sérémé, qui conduit l'enquête, n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Le gouvernement, lui, annonce une panoplie de mesures sécuritaires.
Vous avez entendu toutes les mesures de sécurité qui sont prises en ce moment. Des mesures de sécurisation des villes, des mesures de sécurisation des entrées des villes, des frontières, des contrôles plus approfondis et des patrouilles le long de nos frontières avec le Mali. Et toutes ces mesures qui sont donc prises sont de nature à sécuriser et à rendre le Burkina comme tout autre pays paisible.
En attendant de nouveaux éléments de l'enquête, les familles des victimes sont toujours sous le choc.
Ça veut dire qu'il y a une forte compassion du gouvernement, c'est important. Celui qui a perdu un être cher dans ces circonstances-là oublie difficilement. C'est très difficile, c'est pénible, surtout dans un contexte pareil. Le gouvernement est disposé à accompagner chaque famille pour une sépulture digne de ce nom pour ce qui concerne les victimes. Pour ce qui concerne les décédés.
Les enquêteurs devraient s'exprimer avant la fin de la semaine sur de nombreuses questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse, notamment les différentes complicités et implications, mais aussi le nombre exact d'assaillants et la question des terroristes en cavale.
Merci Issa. Sans plus tarder, nous nous tournons vers nos invités. Depuis Ouagadougou, Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Merci de prendre part à notre émission, monsieur le ministre.
Oui, bonsoir.
Via Skype de Dakar, Babacar Ndiaye, directeur général adjoint du cabinet Impact Africa Consulting. De Paris, Samuel Gembok, chercheur à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Avec moi sur ce plateau de New York, Bourema Niambele, activiste malien résidant à New York, fondateur du mouvement Peace in Mali. Et sur notre plateau de Washington, mon collègue de VOA Afrique, Bagassi Koura. Monsieur le ministre, certaines zones d'ombre à éclaircir d'abord. Les autorités ont-elles pu confirmer le nombre exact d'assaillants ? Combien sont encore en fuite ? Et les 3 qui ont été tués ont-ils été identifiés ?
Alors, à ce jour, toutes les informations dont nous disposons indiquent qu'il y a trois assaillants. Et vous savez, il y a eu beaucoup de versions autour de cette affaire. Comment les assaillants sont arrivés, comment ils ont attaqué la première cible. Donc, il y a eu beaucoup de versions. Évidemment, c'est tout à fait normal dans ce genre de situation et les informations que nous avons jusque-là se précisent de plus en plus et nous n'avons aucune indication montrant qu'il y avait plus de trois assaillants, c'est-à-dire les trois qui ont été tués. Bon, évidemment, nous avons entendu ici et là qu'il y a trois assaillants qui sont en fuite. Nous n'avons pas de précision à ce niveau, donc à ce stade, pour nous, il n'y avait que trois assaillants et personne n'a pu nous donner d'indications sur d'autres assaillants qui n'ont pas été comptabilisés ou qui n'auraient pas été en tout cas comptés parmi les assaillants qui sont arrivés sur les lieux. Donc pour nous, il y avait trois assaillants et qui ont été neutralisés. Alors maintenant, sur l'identité de ces assaillants, tout porte à croire qu'il s'agit d'assaillants étrangers qui sont arrivés à Ouagadougou, qui ont loué un véhicule. Et sont-ils venus du Mali? En tout cas, il s'agit de personnes de peau claire et d'autres de peau noire, et pas en tout cas des gens du Burkina.
Voilà, donc l'enquête se poursuit, je vous comprends. Mais le gouvernement burkinabé a-t-il été mis au courant d'une cellule dormante dans la capitale? De nouvelles attaques sont-elles possibles, monsieur le ministre?
Tout est possible, vous savez, même ça l'était déjà avant tout ça, parce que nous sommes dans la bande sahélo-saharienne, donc dans cette bande sahélo-saharienne, donc c'est la principale cible des djihadistes en ce moment, et c'est un phénomène qui était contenu plus au nord, mais qui descend de plus en plus, et donc Ouagadougou n'échappe pas. Pour nous, aucune ville, même d'autres parties du sud, vous avez vu les menaces il y a quelques mois sur le nord de la Côte d'Ivoire et les attaques qui ont eu lieu dans le sud du Mali à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, aucune zone n'échappe. Ce qui est arrivé à Ouagadougou, c'est quelque chose qui était dans l'ordre du possible. Même si, tant que vous n'avez pas d'informations précises, il vous est difficile de faire face à une telle situation.
Mais pouvez-vous confirmer l'existence de cette cellule dormante?
Non, je ne peux pas vous confirmer l'existence de cellules dormantes. Ce qui est sûr, les forces de défense et de sécurité sont en train de fouiller certains quartiers, certaines maisons suspectes, tout simplement sur la base d'indications ou des populations qui soupçonneraient tel ou tel endroit. Et les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre et fouillent tous ces endroits-là. Ouais.
Certainement, nous comprenons. Alors, votre pays, monsieur le ministre, vient à peine de sortir d'une transition ayant suivi la chute en octobre 2014 de Blaise Compaoré. Le Burkina a-t-il été pris de court par cet assaut? Le tout nouveau chef d'État, Roch Marc Kabore, doit-il donc faire de la lutte contre le terrorisme l'une de ses priorités?
Oui, malheureusement. Malheureusement, c'est-à-dire qu'au moment où on pensait qu'on allait s'attaquer au problème de développement tout de suite et en faire des priorités, parce qu'il y en a beaucoup dans ce pays qui est pauvre, comme vous le savez, malheureusement, il y a ce défi sécuritaire-là qui surgit et du coup, la sécurité devient l'une des priorités, ou pour ne pas dire la priorité des priorités, parce que toute action de développement désormais accrochés à l'inquiétude qu'on peut avoir dans le pays. Donc du coup, le défi sécuritaire devient non seulement urgent, mais vraiment prioritaire. Et donc, c'est un gouffre au niveau des ressources, ça c'est sûr, mais on n'a pas le choix. On a besoin que le Burkina soit paisible et que tous les gens aussi qui ont choisi de vivre au Burkina se sentent en sécurité et en paix.
D'accord. Oui. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, restez avec nous, j'ai d'autres invités. Alors, pour des observateurs, l'attaque de Ouaga n'est pas une surprise, car plus aucun pays sahélien n'est épargné désormais. Partagez-vous cet avis, Samuel Gembok ?
Le pays n'est aujourd'hui à l'abri de potentiels attentats, que ce soit en plein centre-ville ou dans les localités. Il faut reconnaître que les groupes armés terroristes essayent de frapper là où ils échappent littéralement au contrôle des forces de sécurité. Il y a une très grande concurrence médiatique entre deux grands groupes, deux grandes organisations terroristes que sont d'un côté l'État islamique et de l'autre ACMI au Maghreb. Et il y a des allégeances qui sont faites de part et d'autre. Il y a donc cette concurrence à la fois médiatique, mais aussi une volonté de présence dans les différents pays. Et donc, face à cette concurrence, la vulnérabilité des États est exploitée de la part de cette ramification qu'on peut observer aujourd'hui dans l'ensemble des pays, finalement, de l'Afrique.
Ouais. Alors, Bourema Niambele, l'attaque de Ouaga survient moins de deux mois après un assaut de djihadistes, après un assaut contre un hôtel dans votre pays. Alors, cet attentat vient-il accroître l'inquiétude des populations dans des pays comme le vôtre ?
Bon, je voudrais d'abord m'incliner devant tous les morts, vraiment, de tous ces djihadistes en Afrique actuellement. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que l'inquiétude est complètement partagée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que je pense pas que ces gens-là ont vraiment le sens même de la frontière. C'est pas les problèmes. Et donc, comme Samuel le disait tout à l'heure, je pense qu'entre aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands groupes terroristes qui se compétent en Afrique de l'Ouest. Et raison pour laquelle, comme on a vu le Boko Haram changer et prendre le nom de l'État islamique d'Irak. Et donc, je pense que avec tous les attaques qu'ils sont en train de faire actuellement au Tchad, comme au Cameroun et au Nigeria, et je pense que l'ACMI, à un moment donné, avec Ben Mokhtar, je pense qu'il y a eu un certain nombre de trucs pour eux d'essayer de montrer aussi leur présence en Afrique. Je pense que là, il faudrait vraiment que l'Afrique tout entière, spécialement l'Afrique de l'Ouest, oui, qu'on essaye quand même de
travailler. Et tout à l'heure, on va essayer
ensemble
de voir comment l'Afrique fera face à ce défi. Babacar Ndiaye, en ciblant le Burkina, venez de l'entendre, ACMI, est-il en train de démontrer qu'il peut frapper en dehors de sa zone d'action habituelle, qui comprend notamment le Mali, le Niger et l'Algérie? Cela découle-t-il de sa rivalité avec le groupe État islamique?
Oui, tout à fait. Il est clair que c'est un élément à prendre en compte dans l'analyse. Aujourd'hui, si on veut comprendre ce qui se passe dans la région en termes d'attaques terroristes, il est clair qu'en l'espace de deux mois, que ce soit au Mali et au Burkina Faso, on a eu des attaques similaires. Et il faut rappeler aussi que les attaques qui ont été, les lieux qui ont été choisis pour l'attaque n'ont pas été choisis de manière anodine. C'est vraiment un message que ACMI a voulu lancer à l'opinion nationale et internationale pour dire qu'ils sont toujours présents et peuvent attaquer à tout moment des capitales africaines. Et il est clair qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une sorte de surenchère entre Daesh qui s'implante véritablement en Afrique et qui a reçu l'allégeance de Boko Haram au Nigeria, et ACMI aujourd'hui qui revient au devant de la scène avec ces deux attaques qui ont eu lieu en l'espace de deux mois. Et donc clairement aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de manière générale est devenue une place de compétition entre ces deux mouvements djihadistes et terroristes internationaux. Et donc c'est clairement un élément aussi qu'il faudra prendre en compte dans la lecture pour comprendre pourquoi l'Afrique est devenue une terre aussi favorable à des attaques terroristes et à l'implantation de ce type de groupes.
Bagassi, nous savons que les jeunes ont joué un rôle prépondérant dans la révolution burkinabé qui a conduit à la chute du régime Compaoré. Lorsqu'il est question de l'attaque de Ouaga, des témoins ont déclaré que les assaillants ressemblaient à des enfants. L'heure est évidemment toujours aux interrogations, nous venons de l'entendre de la part du ministre quant à leur identité. Mais y a-t-il le danger que des jeunes burkinabés désemparés, confrontés à la pauvreté, soient des recrues faciles pour des groupes terroristes ?
Jacques, non, je ne le pense pas. Je ne pense pas que l'extrémisme soit une question qui est aujourd'hui posée au Burkina Faso. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les différentes communautés, non seulement ethniques, mais aussi religieuses, entre les musulmans chrétiens ou même les animistes. Il n'y a pas du tout de problème. On a vu, le Burkina vient de traverser une année assez tourmentée, notamment depuis la chute de Blaise Compaoré. Et malgré tout ce qui s'est passé, on n'a pas vu de questions religieuses, de questions d'extrémisme à se poser. Les gens ont tout simplement demandé plus de liberté, plus de démocratie, plus de bonne gouvernance. Mais Jacques, pour revenir à votre question, à l'heure actuelle, on ne peut jamais être sûr, on ne peut être sûr de rien, hein, parce que qui aurait cru que l'Afrique de l'Ouest serait devenue en quelques années le nid même du terrorisme dans le monde. Donc on ne peut rien exclure et peut-être qu'il faut essayer de surveiller un développement éventuel de l'extrémisme dans le pays.
Oui. Et d'ailleurs, Bagassi, nous pouvons demander au ministre Barry ce que le gouvernement a prévu pour ces jeunes burkinabés pour éviter que certains soient tentés par le terrorisme, même si ce n'est pas vraiment le cas. Mais très rapidement, monsieur le ministre.
Oui, ce sont les actions de développement. Vous savez, le président Roch Kabore a parlé des jeunes dans son discours qu'il faut trouver des solutions tout de suite pour les jeunes. C'est les solutions d'emploi. Beaucoup de jeunes sortent des universités et n'ont pas d'emploi. Il y en a qui n'arrivent pas à l'université, mais qui ont quand même des diplômes et n'ont pas d'emploi. D'autres ne sont pas allés à l'école et n'ont pas d'emploi. Quand vous voyez les concours lancés par la fonction publique, parce que la fonction publique reste encore le plus gros employeur, malheureusement, dans nos pays. Donc quand on lance les concours d'entrée à la fonction publique, vous avez parfois des dizaines de milliers de personnes qui peuvent être en compétition pour quelques dizaines de places. Et donc c'est pour dire tout l'enjeu qu'il y a autour des jeunes à les occuper. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire avec le secteur privé, avec la coopération, avec les partenariats noués ici et là à travers le monde pour plus d'investissements. Et nous craignons maintenant que cette situation-là ne vienne pas décourager les investisseurs. Et c'est pourquoi le président Roch Kabore a lancé un appel aux investisseurs pour dire que nous allons tout mettre en œuvre pour que le pays soit un pays de paix, que ce soit un pays sécurisé.
Voilà, pour les jeunes, l'emploi, une priorité. Voilà, nous l'avons compris, monsieur le ministre, restez avec nous. Alors, un point que fait également ressortir Rahim Tiemtore de Ouagadougou sur la page Facebook de VOA Afrique. Il écrit « La réponse efficace comporte plusieurs volets, dont le volet social, pour éviter de laisser les populations de certaines zones sombrer dans la désespérance, ce qui contribue à les rendre vulnérables à la propagande et aux campagnes d'enrôlement des djihadistes. » Ce qui nous amène à marquer une pause. Washington Forum revient dans quelques petits instants. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Merci pour votre fidélité à Washington Forum sur VOA Afrique. Jacques Aristide de retour avec vous. Nous allons retrouver nos invités dans deux petites minutes. Bagassi Koura nous propose d'abord un récapitulatif de ces groupes qui continuent de semer la terreur en Afrique.
Le terrorisme aura une nouvelle fois marqué le continent africain cette année. Attaques meurtrières, attentats, suicides et enlèvements se sont multipliés. Une poudrière de plus en plus menaçante. Ses acteurs les plus marquants, ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI regroupe plusieurs organisations parmi lesquelles on peut citer le Moudiao en Sardine et Al-Mourabitoun dans le Sahara et dans la zone sahélienne. ACMI opère surtout en Algérie. Elle a pour ambition d'instaurer un califat islamique dans le nord du Mali, l'ouest du Niger et l'est de la Mauritanie. Les attentats de Ouagadougou le 15 janvier dernier ont été revendiqués par Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Quant à Ansar Dine Diad Ag Gali, elle a revendiqué l'enlèvement dans la même journée du 15 janvier d'un couple australien dans le nord du Burkina. Fondée en 2002 dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram, de son nom officiel groupe sunnite pour la prédication et le djihad, est devenu il y a quelques mois l'organisation la plus meurtrière de la planète. Le groupe est responsable de plus de 6 000 morts en 2014, au moins 17 000 depuis 2009. Boko Haram détrône ainsi l'état islamique. Boko Haram fait aussi des victimes dans le nord du Cameroun, au Tchad et dans une partie du Niger. Al-Shabaab, une autre organisation affiliée à Al-Qaïda, opère principalement dans le centre et le sud de la Somalie. Le groupe a déjà mené des raids meurtriers à Djibouti, en Tanzanie, en Éthiopie, en Ouganda et au Kenya. Au Kenya, le groupe a notamment perpétré l'attentat contre le Westgate Mall qui a fait 67 morts en septembre 2013 et aussi l'attaque contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts en avril 2015. Et tout dernièrement, le 15 janvier, une attaque du groupe a fait plusieurs dizaines de morts au sein des soldats kenyans déployés en Somalie. Le plus radical de la mouvance salafiste tunisienne, Ansar al-Sharia, a été créé en avril 2001 et revendique l'instauration de la loi islamique en Tunisie et en Libye. Ansar al-Sharia aurait perpétré le 11 septembre 2012 l'attentat contre le consulat américain à Benghazi. Ansar al-Sharia est très proche de la nébuleuse Al-Qaïda.
Merci Bagassi, Bagassi Koura qui est toujours avec nous depuis notre studio de Washington. Nous retrouvons également le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, Babacar Ndiaye du cabinet Impact Africa Consulting, Samuel Gembok, chercheur à l'IRIS et l'activiste malien Bourema Niambélé. Monsieur le ministre, vu le risque très réel d'attaque terroriste sur le continent, est-il temps pour les gouvernements africains de prendre le problème à bras le corps, au lieu de compter peut-être un peu trop sur la communauté internationale?
Il est temps. Vous savez, déjà en novembre, quand le groupe, le G5 du Sahel se réunissait à N'Djamena, la question était fortement à l'ordre du jour, comment les États du Sahel peuvent prendre ce problème à bras le corps. Et c'est pendant qu'ils étaient réunis qu'est intervenu au même moment l'attaque du Radisson. Et aujourd'hui, à Ouagadougou, nous avons reçu la visite du président tchadien Idriss Déby. Et dans la discussion avec son homologue burkinabé, le président Roth, c'était la question principale. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous devons faire, quelle organisation à mettre en place entre les différents pays du Sahel pour faire face à la situation. Et vous savez, il y a une idée déjà qui est émise depuis N'Djamena, qui est l'idée d'une brigade de lutte contre le terrorisme, une brigade qui serait composée de trois régiments, à répartir dans la zone du Sahel, et des régiments d'intervention, bien sûr composés des forces de plusieurs pays, mais il faut être réaliste. Le terrorisme est un phénomène mondial et ce n'est pas un phénomène qu'un seul État peut combattre ou qu'un petit groupe d'États peuvent combattre. C'est un phénomène qui nécessite beaucoup de moyens parce que c'est sur la durée et donc il faut des moyens et la donc, coopération est assez importante dans ce niveau.
On l'a compris, monsieur le ministre, donc on ne peut pas vraiment se passer de la communauté internationale. Samuel Gembok, le renseignement est très important dans la lutte contre le terrorisme, nous disent les observateurs. Mais les États africains ont-ils vraiment les moyens nécessaires pour se doter de bons services de renseignement? Je vais vous demander de me donner des réponses assez précises, concises. Désolé de vous bousculer. Allez-y, Samuel.
Oui, je pense que les États africains ont suffisamment de moyens. En matière de lutte contre le terrorisme, ce ne sont pas les moyens qui sont prioritaires. Il faut d'abord produire, comme disent les spécialistes de sécurité, produire le bon sens. Et le bon sens a manqué terriblement aux pays africains pour anticiper cette menace. Il faut 80% de bon sens, il faut environ 10% de volonté politique et ensuite il faudra prendre en compte les moyens capacitaires. Et en ce qui concerne les moyens capacitaires, au lieu d'aller dans tous les sens pour lutter contre le terrorisme, il faut bien planifier, il faut bien opérer une planification stratégique. Ça veut dire qu'il faut renforcer les capacités en termes de surveillance, renforcer les capacités en termes de détection pour anticiper tout potentiel attentat terroriste dans les lieux de fréquentation publique. Il faut une coordination des différents services de renseignement. Pendant longtemps, ces services ont été très cloisonnés, mais il y a une forte prise de conscience de la part des pays africains et il faudrait peut-être qu'on articule davantage en termes de moyens, en termes de renforcement des capacités, en termes de logistique, des moyens nécessaires pour
Babacar
anticiper.
Ndiaye, je pense que... désolé de vous interrompre, comme ça va aller très vite. Babacar Ndiaye, au Sénégal, par exemple, quelles sont les mesures qu'a déjà prises le gouvernement de Macky Sall pour prévenir le danger sur le sol sénégalais? Brièvement, s'il vous plaît.
Écoutez, au Sénégal, je crois savoir que le président Macky Sall a pris un certain nombre de mesures, notamment en renforçant le matériel et les moyens financiers des forces de sécurité et de défense. Et ça, je pense que ça a été un élément assez important qu'il faut saluer dans cette lutte contre le terrorisme aussi. Mais surtout, d'abord, c'est d'abord le discours qu'il a bien voulu véhiculer. Il a expliqué aux populations sénégalaises que la menace terroriste est devenue une menace globale et que les populations doivent savoir que, voilà, le Sénégal est souvent considéré comme un îlot tranquille dans un océan de pays confrontés au terrorisme et qu'aujourd'hui, voilà. Le Sénégal est
malheureusement, le temps passe trop vite dans cette émission. Je suis désolé, Babacar, peut-être. Bourema, vous pensez que la bataille, cette lutte au Mali sera totalement gagnée à ce moment?
Bon, je pense que la bataille serait gagnée si l'ensemble de ces pays-là peut travailler ensemble dans un intérêt commun. Et aussi, je pense que dans le Mali, comme dans le passé, vous savez que ce problème d'ACMI et des autres groupes terroristes sont actuellement la base au Mali. Et je pense qu'entre un effort vraiment très lourd doit être mis aux côtés du Mali. Et spécialement, le gouvernement du Mali doit faire un travail extraordinaire pour que les autres puissent venir les aider et travailler dans ce sens-là.
Le mot de la fin à ce jeune Burkinabé, Bagassi, pour revenir à votre pays, le Burkina, quand vous parlez à vos compatriotes, ont-ils confiance que le pays se remettra très vite de ce douloureux vendredi 15 janvier ?
En tout cas, c'est l'espoir de beaucoup de gens. D'ailleurs, il faut le dire, la vie est en train de redevenir normale à Ouagadougou, si on peut dire, avec notamment l'ouverture de l'avenue Kwame Nkrumah à la circulation ce matin. Kwame Nkrumah, c'est là où se situe le centre des attaques à Ouagadougou. Parce que les Burkinabés se sont battus pendant plus d'un an pour aboutir à ce gouvernement démocratiquement élu qui leur a promis beaucoup de choses. Et ils ont hâte de voir ce gouvernement à l'œuvre répondre à leurs aspirations que de gérer cette situation de crise qui pourrait plonger le pays à des années-lumière en arrière.
Je peux même me permettre de poser cette question. C'est un choix, monsieur le ministre. Dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, au bout du compte, le plus important, c'est quoi? Des présidents forts ou des institutions fortes?
Franchement, des institutions fortes. Des institutions fortes. Parce que quand vous avez des institutions fortes, tout vous êtes assuré que tout va marcher. Je ne crois
en tout cas, ce que vous dites, ça va faire plaisir au président américain Barack Obama qui fait appel justement aux institutions fortes. Merci à tous nos invités, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, l'activiste... Niambele, les analystes Babacar Ndiaye et Samuel Gembok, sans oublier mon collègue Bagasikoura. Washington Forum prend fin ici. Merci à toute l'équipe. C'était Jacques Aristide à New York. À la prochaine. Take care. Good friend.